People have not made this up. It has been restored. Maranatha has been restored to the church. Our Lord will come. Hallelujah.
Ce que vous entendez, c'est un prédicateur d'une nouvelle église évangélique. L'expansion de ces groupes à Alep crée un sentiment de malaise au sein des 11 églises traditionnelles de la ville, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou protestantes. Malaise, car ces groupes font du prosélytisme, d'abord au sein des familles chrétiennes, ensuite pour certains auprès de musulmans, bien que cela soit interdit en Syrie. Malaise aussi car ces groupes sont pour la plupart américains et donnent ainsi un sentiment d'intrusion dans la région. Pour l'heure, ces nouvelles églises ont un statut d'association et non de culte reconnu par le gouvernement. Les leaders chrétiens de la deuxième ville de Syrie s'interrogent sur le rapport à mener avec ces groupes. Ils réfléchissent aussi sur ce qui a pu conduire certains chrétiens, outre les aides économiques proposées par ces évangélistes, à quitter leur église, comme nous l'explique Mgr Boutros Marayati, archevêque des Arméniens catholiques d'Alep.
Avec l'arrivée de ces sectes ou de cette petite église, ou bien de ces courants qui viennent de l'extérieur, qui n'existaient pas avant, et qui ont formé leur église, en prenant des fidèles des autres églises déjà existantes, en faisant un vrai prosélytisme, alors ils se sont mis, eux, en dehors de nos églises. Et puis, ils ont commencé à attaquer les églises traditionnelles, dans les sermons, dans leurs réunions.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochent directement?
Le culte des icônes, pour ne donner qu'un exemple. Pour nous, les catholiques, surtout, la dévotion envers la Sainte Vierge, la figure du pape et de Rome. Pour les protestants, leur infidélité à l'Évangile et à l'Esprit Saint. Alors, il y a toujours un moyen de pouvoir attaquer et agrandir un peu les choses pour attirer les fidèles en leur disant, voilà, vous êtes là-bas, ils ne vous donnent pas la vérité, voilà la vérité, nous avons la Bible. Et ils cherchent à donner quelques passages de la Bible qui peut un peu troubler les esprits qui ne connaissent pas bien l'Évangile. Et je crois aussi que la façon de parler, ils sont bien préparés. Ils arrivent à attirer l'attention, à s'occuper personnellement de chaque fidèle qui arrive là-bas. Ce n'est pas un fidèle inodore, incolore, insipide. Il y a une relation personnelle avec lui. Les visites à la maison. Alors cet esprit de groupe aide un peu à donner cette vitalité et cette chaleur humaine.
Mais alors finalement, ces groupes, pour l'instant, ils essayent de recruter chez les chrétiens ou ils essayent aussi chez les musulmans?
Maintenant, les fidèles qui se trouvent chez eux sont recrutés parmi les chrétiens, parmi les baptisés. Bien qu'un groupe de baptistes rebaptise quelquefois ces mêmes chrétiens. Mais comme on a entendu parler qu'il y a un groupe, une église, qui arrive même à faire un genre de mission parmi les musulmans. Bien que c'est défendu par le gouvernement, il y a des quelques-uns qui vont là-bas pour entendre parler du Christ, et surtout parmi les Kurdes. Les Kurdes sont plus ouverts que les autres musulmans, et on ne sait pas encore comment étudier ce phénomène et où il va aboutir ce phénomène. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces musulmans qui veulent devenir chrétiens? Parce que ces églises sont toujours des églises patronnées par les États-Unis. Et ils y croient qu'en devenant, en faisant part de ces églises, ils peuvent avoir des visas pour voyager, pour émigrer ailleurs. Mais c'est une question très compliquée. Il faut l'étudier un peu profondément. Dernièrement, il y a eu un mouvement que tous ces groupes, ils ont demandé d'avoir une rencontre avec les églises officielles ou bien les églises traditionnelles. Et maintenant, on est en train d'étudier cette question et ce problème. Ce congrès aura lieu au Liban, pas ici. D'une part, c'est bien de les entendre, mais d'autre part, une fois qu'on est avec eux, on a peur qu'ils croient, qu'on les reconnaisse et que tout va bien, parce que notre condition, c'est d'arrêter le prosélytisme. Et cette condition, je ne crois pas qu'ils puissent l'accepter parce que eux, ils sont nés comme des missionnaires et ils veulent continuer. Et je ne sais pas comment on peut trouver un point de dialogue.
Vous l'avez noté, ceci dit, il y a aussi des aspects positifs parmi ces groupes, notamment le charisme, la manière de parler, la proximité avec les fidèles. Est-ce que, du coup, ça, quelque part, ça pose question aux églises traditionnelles? Est-ce que ça vous pose question sur la manière de dialoguer avec vos fidèles?
Pour moi, et ce qu'on a dit ensemble pendant ces réunions, ce n'est pas à nous d'attaquer ces mouvements et dire à nos fidèles il ne faut pas aller là-bas, mais faire de sorte que nous aidons nos fidèles et nous apprenons de ces mouvements comment vivre ce charisme parmi nous. Par exemple, chez nous, nous avons commencé le renouveau dans l'esprit, un mouvement charismatique qui groupe les fidèles et qui vivent cette intimité ensemble. Et chaque église traditionnelle maintenant essaie de sortir de son blocage traditionnel pour aller de l'avant en créant des mouvements plus modernes, plus accueillants et qui soient plus voisins des attentes des fidèles. Parce que, comme on sait bien, nous les catholiques, on a été toujours bloqués dans des dévotions traditionnelles, le rosaire, le chemin de la croix, le culte des icônes, tout ça c'est bien. Mais on a besoin aussi de faire un certain renouveau de l'intérieur, laisser par exemple les fidèles prier, laisser les fidèles parler devant les autres, exprimer leur expérience, et surtout de redécouvrir l'écriture sainte. Ça, ce qui manquait dans les églises catholiques et orthodoxes. Et c'est pourquoi nous organisons des groupes de relecture, de lectio divina, et même nous avons ouvert un centre de théologie approfondie pour aider nos jeunes à redécouvrir leur foi dans la profondeur.